RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Vous l'entendez, on s'intéresse ce matin à la situation des chrétiens d'Orient à l'occasion d'une journée, le 5 mai, où se réuniront des chrétiens pour prier à l'occasion de la journée des chrétiens d'Orient, que ce soit dans les paroisses ou dans toutes les communautés. C'est vraiment l'occasion de manifester solidarité et communion. Alors nous, on va faire focus jusqu'à 11h sur un festival, le festival des chrétiens d'Orient, organisé dans la Marne, à l'abbaye d'Andecy, les 6 et 7 juillet prochains. On va vous présenter le programme et puis on va essayer aussi de comprendre pourquoi la création d'un tel festival, avec vos témoignages, vos messages, en quelle mesure est-ce que vous vous sentez proche et concerné par la situation des chrétiens d'Orient? Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment continuer de se mobiliser pour eux? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour en discuter jusqu'à 11h, deux invités que je vous présente tout de suite. Bonjour Nicolas Mélin-Sainte-Beuve.
Bonjour Melchior.
Je commence avec vous parce que vous êtes chef de projet du service jeune de l'œuvre d'Orient. Vous êtes notamment à l'origine de la création de ce festival des chrétiens d'Orient. C'est le tout premier.
Oui, tout à fait. C'est une initiative qu'on a eue un petit peu aussi avec l'arrivée de cette abbaye d'Andecy que le diocèse de Châlons confie gracieusement à l'œuvre d'Orient cette année. Voilà, donc l'idée est venue en visitant le lieu avec Mgr Gollnisch. Et voilà, on s'est dit que ça pourrait être une belle occasion aussi de rassembler tous les latins, tous les orientaux dans un lieu en France cet été.
Avec nous également en plateau, Antoine Fleffel, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également dans cette émission, je pense donc j'agis. Vous êtes théologien et philosophe, vous êtes aussi le directeur de l'Institut des chrétiens d'Orient. Vous avez participé d'une manière ou d'une autre, vous, à la création du festival?
Je participe à son organisation, puisque l'Institut chrétien d'Orient y prendra part.
Oui.
Vu que c'est un moyen par excellence, durant cette période estivale, de pouvoir nous rencontrer. En même temps, être ensemble, célébrer, écouter, échanger, penser, faire beaucoup de choses.
Je fais un lien avec la première partie de l'émission, je pense donc j'agis. Pourquoi, d'après vous, Antoine Fleffel, il est vraiment encore temps de se mobiliser pour les chrétiens d'Orient?
Il est toujours temps de se mobiliser pour les chrétiens d'Orient. En France, on en parle d'une manière assez soutenue depuis 2 siècles. Les chrétiens d'Orient sont porteurs de problématiques qui concernent tout le monde et pas seulement eux. Des questions qui ont trait à l'altérité, à la liberté de conscience, à la laïcité de la société, à la citoyenneté. Et puisque ces problèmes participent maintenant à tout le monde, se mobiliser auprès des chrétiens d'Orient, ce n'est pas seulement les aider, mais c'est aussi penser aux problématiques auxquelles tout le monde est affronté aujourd'hui, dont celle aussi de l'extrémisme religieux.
Nicolas Mélin-Sainte-Beuve, c'est à partir de ces constats, ou en tout cas de ces observations, que ce festival est né. Quel est l'objectif, en fait, par rapport notamment à la journée aussi qu'on va vivre le 5 mai? Est-ce que c'est le même objectif, en tout cas, de se mobiliser, d'entrer en communion avec les chrétiens d'Orient, mais sur une durée un peu plus longue, c'est-à-dire 2 jours?
Alors oui, mais ça c'est vraiment même l'objectif de l'œuvre d'Orient, d'être en communion avec les chrétiens d'Orient. Oui, il y a cette idée de pouvoir développer sur 2 jours plus de choses, plus d'activités aussi. Alors la journée du 5 mai est vraiment une journée dédiée pour que tous les Français puissent vraiment prier, penser aux chrétiens d'Orient et puis voilà, agir là où ils sont. Et puis voilà, vice-versa aussi pour que les chrétiens d'Orient puissent prier pour nous. Ce week-end du 6-7 juillet, c'est vraiment un week-end où on va pouvoir plutôt entrer dans le vif du sujet avec des conférences, entrer dans le vif du sujet avec des témoignages, et puis aussi pouvoir déployer un petit peu des expositions, donc en fait de la culture, du spirituel, du fraternel, des rencontres entre chrétiens d'Orient qui sont en France ou qui viennent d'Orient pour l'occasion, et puis les Français.
Pourquoi le choix de l'abbaye d'Andecy dans la Marne? La Marne, Nicolas Mélin-Sainte-Beuve.
Alors, tout simplement parce que c'est un lieu qui a été mis à disposition de l'œuvre d'Orient. C'est un lieu très très beau qui a la particularité d'avoir à la fois une hôtellerie, à la fois des grands espaces pour pouvoir y mener des activités et puis une chapelle assez magnifique construite récemment. Donc voilà, ça permet de voilà, déployer un peu toutes les activités que nous souhaitons mettre en œuvre pendant ce festival.
Antoine Feffel, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes le directeur de l'Institut Chrétien d'Orient, l'ICEO, qu'on pourra peut-être appeler dans cette émission. Vous participez donc à ce festival, vraiment d'un point de vue organisation. Quel est l'objectif de cet institut? C'est vraiment de pouvoir transmettre l'histoire des chrétiens d'Orient?
Cet institut qui a été fondé il y a 4 ans avec le soutien de l'œuvre d'Orient a comme objet d'étude les chrétiens d'Orient. Institut chrétien d'Orient, oui. Et pas des chrétiens d'Orient parce qu'il est à tout le monde. Et notre objet d'étude pour le comprendre, nous l'inscrivons dans son contexte et nous l'abordons à partir d'une étude pluridisciplinaire pour comprendre qui sont les chrétiens d'Orient. Et c'est ce que le festival mettra en valeur en exposant plusieurs aspects de ce que sont les chrétiens d'Orient, le spirituel, l'intellectuel, l'humain, le traditionnel. Pour les comprendre, on les étudie d'un point de vue classique, théologie, Bible, liturgie, spiritualité, les disciplines qui viennent spontanément à l'esprit de celui qui s'intéresse à ces communautés, mais nous les étudions aussi d'un point de vue profane, c'est-à-dire la géopolitique, l'histoire, la sociologie, la philosophie. Parce que les chrétiens d'Orient ne sont pas seulement, comme on les appelle, ces chrétiens d'origine. Effectivement, ils sont en continuité depuis l'ère apostolique présente sur cette terre depuis 2000 ans. Mais ce sont aussi des communautés vivantes qui participent à la société, à la politique, à la culture, à la création de contextes qui fait partie des conflits qui ont lieu au Proche-Orient. Ce sont des communautés vivantes. Il ne faut pas les figer dans un moment historique du passé. Il ne faut pas les fantasmer dans une beauté liturgique qui est certainement réelle ou dans une conception religieuse. Tout cela fait partie de ce qu'ils sont, mais c'est une réalité humaine très complexe. Nous étudions cette réalité à l'Institut chrétien d'Orient, qui est un institut d'enseignement supérieur en lien avec beaucoup d'universités qui a accueilli plus de 350 inscriptions cette année. Et un dernier élément qui est très important, notre étude des chrétiens d'Orient n'est pas une étude neutre. Nous ne faisons pas de l'art pour l'art. Si nous réfléchissons et nous essayons de comprendre cette réalité, c'est pour agir. Et pour nous, cette étude débouche sur un engagement. Pas un engagement sectaire ou communautaire, mais un engagement humain dans le sens de ce que j'ai dit. Parce qu'en œuvrant pour les chrétiens d'Orient, nous entendons œuvrer et réfléchir pour toute la région, pour chaque humain, quelle que soit son identité, son appartenance et sa religion.
Solène nous a envoyé un message à l'adresse direct@rcf.fr. Elle nous dit « Je reviens d'un pèlerinage de 2 semaines en Terre Sainte, au cours duquel j'ai eu le privilège de suivre au quotidien une sœur de Nazareth dans ses activités. Et je peux témoigner de la difficulté pour eux de continuer à manifester leur foi dans un contexte géopolitique exacerbé. Ils sont parfois pris en tenaille entre les musulmans et les juifs. » Alors, je trouve ça assez intéressant. Nicolas Mélin-Sainte-Beuve, ce festival, il va avoir lieu dans un contexte, et comme le dit Solène d'ailleurs, un contexte géopolitique compliqué pour les chrétiens
d'Orient.
Oui, tout
à fait. Oui, on en est bien conscient à l'œuvre d'Orient, et c'est bien aussi l'une des raisons pour lesquelles notre mission à l'œuvre d'Orient est d'autant plus importante. On cherche encore plus aujourd'hui à parler de nos frères d'Orient, et puis c'est aussi pour ça que on fait appel à l'Institut chrétien d'Orient, qu'on fait appel à un grand témoin pour venir mettre à disposition des Français qui sont parfois un peu loin de la réalité du terrain, qui puissent vraiment tâter un petit peu plus la réalité de ce que vivent nos frères en Orient, de ce que vivent les religieux, de ce que vivent les laïcs. Donc c'est le festival et toutes les actions de l'œuvre d'Orient, la journée du 5 mai, prennent leur sens vraiment au regard de ce qui se passe en Orient. Si on ne regarde pas ce qui se fait en Orient, ça n'a pas un grand intérêt de développer ses activités.
Antoine Feffel, vous confirmez, ce contexte, il est compliqué en ce moment pour les chrétiens d'Orient, et ça a d'autant plus de sens en 2024 et en ce moment de se mobiliser, comme vous l'avez dit, même si c'est tout le temps finalement, mais d'autant plus en ce moment.
C'est effectivement tout le temps. L'Institut chrétien d'Orient est né avec le souci de comprendre ce contexte. Parce que étudier uniquement l'iconographie ou la musique liturgique syriaque ou byzantine est très intéressant, mais n'apporte rien pour comprendre la réalité actuelle et les souffrances que vivent et les chrétiens et leurs concitoyens. Ce festival des chrétiens d'Orient, dans un cadre festif, voudrait aussi transmettre cette réalité. Et j'insiste encore une fois, cette réalité ne concerne pas que les chrétiens d'Orient. Cette réalité concerne tout le monde, en Orient et en Occident. Et je voudrais juste rajouter une chose à la, au beau témoignage qu'a rendu Solène,
oui,
en disant que c'est vrai que les chrétiens peuvent être vus comme en tenaille entre les juifs et les musulmans, mais en aucun cas il faut comprendre ces chrétiens comme étant un élément exogène ou étranger à tout ce qu'il se passe. Ils font partie de ce qu'il se passe et ils sont aussi victimes de toute la violence qui a lieu. Ce ne sont pas des téléspectateurs qui cherchent à se mettre de côté, ce sont aussi des acteurs vivants sur leur place. Et c'est une réalité dont il faut toujours être conscient.
Des acteurs vivants mais qui ont du mal à manifester leur foi ?
Qui vivent leur foi,
oui,
selon les circonstances qui se présentent. Et parfois, les circonstances sont des circonstances d'adversité et ça peut même aller jusqu'à la persécution. Et la foi se déploie surtout dans ces contextes. En Orient, on est habitué. C'est notre histoire.
Nicolas Mélin-Sainte-Beuve, je reviens sur le festival des chrétiens d'Orient qui aura lieu donc les 6 et 7 juillet 2024 à l'abbaye d'Andecy. C'est la première édition dans laquelle il y a déjà un programme chargé. Alors j'imagine que vous travaillez un peu tous les jours pour essayer de nourrir ce programme. Et on sait déjà que il y aura des témoignages, de la prière bien évidemment, et puis des rencontres également autour des chrétiens d'Orient.
Oui, tout à fait. Comme on le disait précédemment, le but, c'est de développer un peu différentes activités, à la fois du culturel, du spirituel, donc bien sûr de la prière, bien sûr des rencontres, parce qu'on invite vraiment tous les chrétiens de France, qu'ils soient chrétiens d'Orient ou chrétiens de rite latin, à venir à ce festival pour créer les rencontres, pour créer les discussions, pour créer les échanges. Et puis voilà, avec quelques temps plus particuliers, avec donc, on l'a dit, des conférences. Antoine, à mes côtés, en fera une.
Oui.
Et puis voilà, des témoignages. Mais vraiment, le but, c'est de pouvoir faire les choses ensemble et pas qu'il y ait un espèce d'orientalisme qu'on aurait pu penser comme tel en France, avec nous, Français, qui allons parler des chrétiens d'Orient sans eux et puis sans vraiment les embarquer dans l'aventure.
Un festival ouvert à tout le monde, et je crois que vous insistez vraiment sur ça. C'est très important. Déjà, tous les âges, les familles, les travailleurs, les professionnels, mais aussi les chrétiens latins, chrétiens orientaux. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous.
Tout à fait. Notre but, c'est vraiment de pouvoir parler à tous, que chacun puisse être conscient de ce que vivent les chrétiens d'Orient, de qui sont les chrétiens d'Orient. Et donc, nous invitons vraiment les familles, les personnes jeunes, âgées, voilà, les chrétiens d'Orient, les chrétiens latins, vraiment le grand public, voilà, avec une possibilité de prendre ses repas sur place, de pouvoir se loger aussi, soit sur place, soit à proximité, selon les disponibilités, voilà, de façon à ce que chacun puisse vraiment se sentir invité et puisse passer un bon moment et un temps qui ne soit pas juste une messe, juste un repas, juste une conférence, mais vraiment un temps partagé, un temps long.
Un temps de fête aussi, Antoine Fleffel ?
Bien sûr, heureusement. C'est pour ouais. ça que ça s'appelle festival. Ouais. Les étudiants de l'Institut chrétien d'Orient seront présents aussi. Bon, j'ai ma double casquette puisque je suis aussi à l'œuvre d'Orient, donc aussi les personnes qui sont dans les milieux de l'œuvre d'Orient seront là. Nous nous rencontrons pour prier ensemble, pour penser ensemble, mais aussi pour célébrer ensemble. Et nous célébrons la rencontre et la vie. Et parce que malgré toute l'ambiance morose qu'il y a au Proche-Orient, nous fondons notre rencontre sur la joie de la résurrection et nous y croyons. Et c'est pour ça que cette rencontre prend principalement un caractère festif. Et à chaque fois que deux chrétiens se rencontrent, quelles que soient les circonstances, c'est festif. Comment alors dans un festival ?
C'est pas délicat parfois d'organiser un événement festif pour parler de sujets qui sont compliqués, qui sont parfois extrêmement tristes, notamment au Proche et au Moyen-Orient, Antoine Fleffel, d'après vous.
Les circonstances sont tristes, mais dans la profondeur, il y a l'espérance de l'avenir. Et quelles que soient les circonstances, nous célébrerons toujours la vie et nous agirons tel qu'il faut agir. Être dans un contexte festif ne nous empêche pas d'être très sérieux dans notre réflexion et dans notre prière et dans notre rencontre. Mais la célébration du Christ est joie, quelles que soient les circonstances.
Oui, il y aura de la joie. C'est vraiment ce que vous nous dites. Ça tombe bien avec le slogan de la radio de RCF. La joie se partage. La joie va beaucoup se partager, Nicolas Mélin-Sainte-Beuve, lors de ce festival.
Oui, tout à fait. Voilà, nous, on est en train de travailler en ce moment à faire en sorte que chacun puisse effectivement avoir à sa disposition parfois des moments un peu plus sérieux, des moments où on va prier, des moments où on va écouter des témoignages. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir aussi vivre ces deux jours de fête ensemble, réellement de fête. Je vais être un peu plus terre à terre qu'Antoine. Antoine parlait de la joie de la résurrection. Moi, je vais parler aussi de la fête, on va dire, un petit peu plus charnelle. Nos frères en Orient n'ont pas arrêté de faire la fête non plus. Le contexte actuel est ce qu'il est. Pour autant, les anniversaires se fêtent, les baptêmes se fêtent. Voilà, c'est aussi notre espérance de pouvoir continuer à faire en sorte que nos frères d'Orient puissent continuer à vivre de la manière qu'ils le souhaitent. Et donc aussi en faisant la fête, aussi en s'amusant. Donc voilà, on exporte un petit peu aussi ce principe chez nous en France.
Allez, 10h15 dans Je pense donc j'agis. Vous avez la parole, je le rappelle, au 04 72 38 20 23. Pour témoigner, dites-nous pourquoi d'après vous il faut vraiment continuer à se mobiliser pour les chrétiens d'Orient. Et puis dans quelle mesure vous sentez-vous proche et concerné par leur situation? Venez témoigner au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23.
I was younger, I wanted a big life. I would lie awake at night. I would stare, I would sing to the ceiling. Were you listening? Ooh, you brought me here to a city of dreams and fears. Ooh, what do I do from here? I will trust in you.
C'était Mélanie Penn pour vous accompagner en ce lundi matin.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec Nicolas Mélin-Sainte-Beuve, vous êtes chef de projet service jeune à l'œuvre d'Orient. Et Antoine Fleffel, je rappelle que vous êtes théologien, philosophe et directeur de l'Institut chrétien d'Orient. Quel a été l'élément déclencheur, Nicolas, pour organiser ce festival? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment?
Alors oui, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic d'une part parce que nos activités à l'œuvre d'Orient s'accélèrent aussi du fait de ce qui se passe en Orient. Donc de plus en plus d'actions et puis au fur et à mesure, voilà, une professionnalisation, une montée en gamme des actions de l'œuvre d'Orient. Et puis comme je le rappelais tout à l'heure, la visite de l'abbaye d'Andecy où d'un coup on s'est vu dans ce très beau lieu où il y avait déjà eu des activités de festival auparavant. Et donc voilà, on s'est dit que peut-être que ce lieu pouvait être l'idée, peut-être que ce lieu pouvait vraiment accueillir quelque chose de festif, quelque chose de grand, quelque chose de fédérateur. Voilà, donc c'est vraiment tout ça combiné. Mmh.
Voilà, en tout cas un lieu adéquat et puis surtout une organisation qui est en train de se mettre en place. On sait déjà qu'il y aura quelques grands invités, Nicolas, autour de ce festival. Est-ce que vous avez quelques noms déjà à partager avec nous ce matin ?
Tout à fait. Peut-être que le premier nom, c'est celui de Mgr Jacques Morad. Mgr Jacques Morad est donc archevêque de Homs pour les Syriaques. Voilà, c'est un grand personnage qui a une expérience de vie étonnante, parfois violente, et qui pourra un petit peu venir nous raconter aussi son expérience en Syrie, sa vie de moine, sa vie de prêtre, sa vie d'évêque. Voilà, il a beaucoup de choses à nous dire. Et alors, j'en dis pas beaucoup plus parce que sinon, vous ne viendrez pas. Mais voilà, n'hésitez pas.
Donc, l'archevêque de Homs, voilà, ça c'est déjà un premier nom. Edith nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Edith.
Oui, bonjour. Je voudrais simplement vous poser une question au niveau des Juifs messianiques en Israël, si l'œuvre d'Orient agit aussi pour eux, et s'ils ont des contacts fréquents.
Avec les Juifs messianiques.
Les messianiques qui sont chrétiens, mais qui ne s'appellent pas chrétiens, vu ce que les chrétiens leur ont toujours fait subir. Donc, ils restent juifs jusqu'au bout. Mais c'est quand même une communauté qui grandit de plus en plus en Israël. Et je ne sais pas si l'œuvre d'Orient agit à leur niveau aussi.
Eh ben, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, Edith, de l'avoir posée. Je me tourne vers vous, Antoine Feffel. Vous avez entendu
l'œuvre
cette
d'Orient
question.
Est une œuvre d'église qui a été fondée en 1856 et qui a comme objectif principal le soutien des communautés orientales catholiques. C'est à partir de ces milieux que l'œuvre d'Orient agit. Certes, les activités de l'œuvre d'Orient se sont développées et le soutien a touché aussi d'autres communautés chrétiennes d'une manière directe ou indirecte, et forcément par le soutien que l'œuvre d'Orient apporte, notamment aux écoles et aux projets culturels et aux paroisses, l'aide qui est proposée concerne tout le monde. Donc dans le contexte, qu'il soit en Israël, en Palestine ou au Liban, ce que l'œuvre d'Orient fait est à la disposition de tout le monde. Mais d'une manière spécifique, l'œuvre d'Orient est une œuvre d'église, et sa relation institutionnelle et ses objectifs principaux vont dans le sens des diocèses, des communautés ou des écoles chrétiennes.
Donc pour répondre à la question d'Edith, oui, l'œuvre d'Orient se mobilise aussi pour les Juifs messianiques ?
Non, l'œuvre d'Orient se mobilise pour les projets qu'elle soutient. Ouais. Néanmoins, ces projets, une école, tout le monde qui est dans l'environnement profite de ce que cette école offre comme service. Mais l'aide directe va au diocèse, aux établissements ou aux congrégations religieuses.
Oui, c'est ça, parce que depuis le début de l'émission, on parle de mobilisation, on parle d'aide. Très concrètement, ça passe par quoi, Antoine Feffel, d'un point de vue mobilisation ? Est-ce que ça veut dire aller sur le terrain pour vraiment accompagner les chrétiens d'Orient qui sont dans une situation extrêmement compliquée ? Ou alors, on parle plutôt d'une aide financière, par exemple ?
C'est tout ça. Oui. Lorsque l'œuvre d'Orient a été fondée au début, l'aide qui y aboutissait en Orient était pour les écoles. Au début, elle s'appelait l'œuvre des écoles d'Orient. Et par la suite, cette aide s'est étendue pour la construction à l'occasion des différents massacres et difficultés, comme par exemple les massacres du Mont Liban en 1860 et ceux de Damas aussi. Et l'œuvre d'Orient, en plus de son soutien pour l'éducation, qui est l'un des éléments principaux de son ADN, de son identité, œuvre dans les contextes qui sont en détresse. Nous l'avons vu ces dernières années en Irak, en Syrie, c'est toujours le cas, c'est le cas en Ukraine, c'est le cas en Arménie. Donc l'œuvre d'Orient, pour pouvoir mener ses projets, aider ces institutions qui sont dans le besoin, se trouve aussi sur place à travers plusieurs délégations qui sont dans les pays, accompagne les personnes qui font ces projets. Donc pour conclure et répondre d'une manière concise à votre question, d'un côté, il y a une aide dans les situations d'urgence et de catastrophe, et d'un autre côté, il y a un soutien continu à des projets principalement éducatifs ou pastoraux qui ont lieu en Orient et qui sont soumis à l'œuvre d'Orient qui accepte de les soutenir.
Nicolas Mélin-Sainte-Beuve, est-ce que le festival qui sera donc organisé début juillet a aussi pour objectif de rappeler vraiment toute la mobilisation de l'œuvre d'Orient ?
Bien sûr. C'est l'œuvre d'Orient qui l'organise, donc voilà, on mettra aussi un petit peu en avant les projets, les différentes réalisations des dernières années de l'œuvre d'Orient dans les pays et dans les congrégations que nous aidons. C'est pas du tout l'objet principal. L'objet principal est spirituel, il est culturel, il est fraternel. Mais voilà, bien sûr que l'œuvre d'Orient pourra aussi montrer un petit peu ses actions sur ces dernières années et voilà, plus particulièrement, comme le disait Antoine, ses actions auprès des communautés catholiques orientales.
J'ouvre une petite parenthèse qui vous concerne, Antoine Feffel. Vous êtes né à Beyrouth il y a quelques années, hein, vous êtes encore jeune.
1977.
Bon, bah voilà, donc je voulais pas donner votre âge, mais vous avez 47 ans, je crois, Antoine Feffel. Vous êtes né à Beyrouth, donc au Liban. Qu'est-ce qu'il reste de ce que vous avez vécu au Liban ? Est-ce que ça vous porte encore aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'occasion de vous y rendre régulièrement ?
Ce qu'il reste, c'est ce que je suis, puisque ce que j'ai été comme personne vivante au Liban fait partie de mon héritage, fait partie de mon chemin en tant qu'être humain. Et ce que le Liban m'a donné est certainement très précieux. Il m'apporte une richesse et une ouverture, surtout l'Orient, et du fait que j'ai vécu la moitié de ma vie en France, ma double appartenance culturelle m'apporte beaucoup d'ouverture et de capacité de compréhension des différentes modalités d'être que portent les êtres humains. Je me rends à Beyrouth d'une manière régulière, 3 ou 4 fois par an, depuis que je suis là, donc depuis l'an 2000, où j'ai des activités d'enseignement, de recherche, d'édition, où j'ai encore de la famille et des amis. J'enseigne notamment à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Et ces allers-retours sont très précieux parce que je rencontre les gens sur le terrain. L'erreur que pourrait faire l'universitaire, c'est de se cantonner derrière des livres et des articles et des activités académiques. Néanmoins, le contact avec le terrain maintient un contact avec la réalité qui est beaucoup plus subtile que les écrits. Et les allers-retours en Orient sont nécessaires sur ce plan.
En un mot, parce qu'il va falloir qu'on marque une pause, comment vont les chrétiens du Liban ?
Ils sont dans une période difficile de leur histoire. Ils en ont connu beaucoup. Ils sont dans une période difficile parce qu'il y a effondrement économique, oui, parce qu'il y a paralysie politique, parce qu'il y a émigration à cause de ces deux éléments et parce que la guerre qui a lieu entre Israël et le Hamas a des répercussions directes sur le Liban, qui est aussi en état de tension dans le sud à travers le Hezbollah et Israël. Donc les chrétiens du Liban vivent, comme les autres Libanais, une situation qui est très compliquée, mais beaucoup d'eux restent porteurs d'espérance et font tout pour agir sur le terrain.
Allez, presque 10h30 dans Je pense donc j'agis. On marque une petite pause, on vous retrouve dans un instant, Antoine Feffel et Nicolas Mélin-Sainte-Beuve, et vous continuez de vous mobiliser pour appeler, pour le coup, au 04 72 38 20 23 pour nous parler de la situation des chrétiens d'Orient. Dans quelle mesure vous sentez-vous proche et concerné? Venez témoigner, on vous attend à l'antenne. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense donc j'agis, les chrétiens d'Orient, au cœur de cette émission avec nos deux invités, Nicolas Mélin-Sainte-Beuve, je rappelle que vous êtes chef de projet service jeune de l'œuvre d'Orient, et puis Antoine Feffel, théologien et philosophe, directeur de l'Institut chrétien d'Orient. Vous continuez de nous appeler pour témoigner au 04 72 38 20 23.
Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père.
tenting me. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon
Pour moi, tu l'as fait. C'était une chanson de Glorious pour vous accompagner en ce lundi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Antoine Fleffel, théologien et philosophe, directeur de l'Institut chrétien d'Orient, et Nicolas Mélin-Sainte-Beuve, chef de projet du service jeune de l'œuvre d'Orient. Est-ce qu'il y aura de la musique également lors de ce festival des chrétiens d'Orient organisé à l'abbaye d'Andecy dans la Marne les 6 et 7 juillet prochains, Nicolas?
Alors oui, Oui, il y aura de la musique. Pour le moment, on ne peut pas encore vous dire parce que les négociations ne sont pas tout à fait terminées. Mais ouais. Oui, il y aura de la musique. Alors, le but est aussi d'avoir de la musique qui soit liée à l'Orient chrétien. Donc, voilà, pas de groupe majeur.
Pas Glorious, par exemple.
Voilà, il y a un instant. Voilà, pas Glorious.
C'était une belle chanson quand même qu'on a entendue il y a quelques instants. Donc, de la musique, un air de fête, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est aussi l'objectif d'un festival, c'est de partager la joie avec tout le monde, puisque c'est un festival qui est ouvert à toutes et tous. Toutes les religions également, Antoine Fleifel.
Bien sûr, j'espère bien qu'il y aura nos frères protestants, j'espère bien qu'il y aura des musulmans, des juifs, des non-croyants, tout le monde est bienvenu. Ce qui concerne les chrétiens d'Orient, concerne tout le monde, et la richesse que les chrétiens d'Orient possèdent est à partager.
On a reçu le message d'une auditrice, Monique, au 04 72 38 20 23, qui se posait cette question. Est-ce qu'on n'oublie pas le Liban quand on parle des chrétiens d'Orient? Alors c'est vrai qu'on en a discuté tout à l'heure, Antoine Fleifel, mais je pense qu'elle a écouté, Monique, cette émission. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, d'après vous, dans les médias ou ailleurs?
Non, je ne crois pas qu'on oublie le Liban. Et heureusement qu'on n'oublie pas le Liban. Le Liban a pu bien compter sur le soutien qui lui est apporté par la France, que ce soit par la France officielle, par l'Église de France, par les Français. On n'oublie pas le Liban, mais c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on en parle moins, vu la quantité de désastres qui existent actuellement dans ce qu'on appelle l'Orient, notamment les trois contextes qui nous mobilisent ces derniers temps, à savoir l'Ukraine, le Haut-Karabakh, et Israël, Palestine. On peut avoir l'impression qu'on oublie le Liban, mais notre amie Monique peut être sûre qu'on n'oublie pas le Liban, et c'est un Libanais qui le dit, donc elle, ouais. D'origine, elle peut le croire. Voilà, et heureusement que le Liban n'est pas oublié.
Nicolas Mélin-Sainte-Beuve, vous êtes, je le rappelle, un chef de projet du service jeune de l'œuvre d'Orient. Alors j'insiste sur la jeunesse, parce que on parle d'un festival. Les festivals, on pense assez facilement à la jeunesse qui s'y rend. Est-ce que vous avez comme objectif, là aussi, à travers ce festival, d'aller plus particulièrement sensibiliser les jeunes à la cause des chrétiens d'Orient?
Alors, bien sûr, parce que c'est aussi ce que je fais à l'œuvre d'Orient. Alors, je le redis, le festival est vraiment ouvert à tous. Mais effectivement, moi, je vais en particulier aller chercher des jeunes, pour que ces jeunes qui sont vraiment l'avenir de l'Église de France, des Églises d'Orient, puissent se rencontrer, puissent discuter, puissent s'enrichir mutuellement, et qu'on puisse avancer ensemble. On a beaucoup à apprendre les uns des autres, même des Orientaux qui vivent en France depuis longtemps maintenant. Hein. On continue de se découvrir, d'apprendre, d'échanger. Oui, aller chercher des jeunes, c'est une priorité aujourd'hui pour moi. Pour l'œuvre d'Orient aussi, pour qu'on puisse continuer à sensibiliser les plus jeunes à la question des chrétiens d'Orient. Mais encore une fois, ce festival reste ouvert à tous.
Et comment vous faites justement pour aller sensibiliser les jeunes?
C'est une bonne question, un peu piège.
Oui, je suis désolé.
Alors, non, il n'y a pas de problème. Alors aller chercher les jeunes, déjà c'est passé par les institutions, donc c'est passé par les universités, par les groupes de jeunes pros, par les mouvements scouts, mais aussi passé par directement les institutions ecclésiales, que ce soit d'un côté la Conférence des évêques de France, les diocèses latins français, mais aussi les églises orientales. Vous savez, en Orient, la jeunesse a un poids énorme. Il y a des mouvements scouts un petit peu partout, il y a des mouvements de jeunesse mariale. Et en fait, en France aussi, ces Orientaux ont reproduit ces schémas avec, pour donner un exemple, les scouts du Liban, les jeunesses vincentiennes. Donc il y a aussi tous ces groupes de jeunes orientaux, donc aller chercher directement auprès des institutions. Et puis l'œuvre d'Orient a un réseau de jeunes qui s'étend d'année en année, d'une part parce qu'il y a beaucoup de jeunes en France qui s'intéressent à la question des chrétiens d'Orient, que ce soit par un biais géopolitique, par un biais spirituel, mais aussi parce que l'œuvre d'Orient envoie chaque année plus d'une centaine de volontaires sur le terrain dans 8 pays différents. Chaque année, ça fait un petit peu de monde qui connaît l'Orient, qui a vécu avec les chrétiens d'Orient, qui revient en France.
Bonjour Françoise. Françoise, est-ce que vous nous entendez?
Oui, allô?
Ah, alors, c'est François? Françoise, peut-être? Non, je me trompe? Ah, écoutez, je ne trouve plus Françoise qui devait témoigner depuis Paris au 04 72 38 20 23. Elle voulait nous expliquer pourquoi elle donnait à l'œuvre d'Orient depuis de nombreuses années. Ça aurait été intéressant, je pense, pour vous, Nicolas et Antoine. C'est une association qu'il faut soutenir, Antoine Feffel, comme beaucoup d'associations. Mais voilà, tous les dons sont utilisés avec des choses très concrètes, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Tout à fait. L'œuvre d'Orient soutient des endroits qui existent parfois dans des contextes sinistrés. Après le passage de Daesh, l'État islamique en Irak, l'œuvre d'Orient s'est engagée pour aider les chrétiens du nord de l'Irak et de tout l'Irak d'ailleurs, notamment dans la plaine de Ninive, dans Karakosh, à la reconstruction. Le soutien qu'apporte l'œuvre d'Orient à des écoles, ou à des lieux de catastrophes construits actuellement en Syrie ou en Ukraine pour faire face à la situation, sont précieux. La présence de l'œuvre d'Orient, ce n'est pas seulement pour mettre en évidence un art ou un héritage ancien, mais l'œuvre d'Orient vient à la rencontre de la détresse humaine actuelle des communautés chrétiennes et leur apporte un soutien. Et c'est l'importance de soutenir l'œuvre d'Orient, entre autres.
Oui, Nicolas, vous voulez compléter ?
Non, mais ce que dit Antoine est tout à fait juste. C'est une association qui a déployé des bureaux aussi en Orient, donc qui a vraiment un œil sur le terrain, et puis d'autre part une longue expérience qui permet d'avoir tissé des réseaux larges et qui permet donc d'avoir une réelle expertise sur le terrain, qui est l'expertise aussi des chrétiens d'Orient et pas seulement celle de l'œuvre d'Orient. Voilà, c'est ensemble que nous avançons.
Mais cher ami, pour vous donner des éléments concrets, puisque nous parlions du Liban, vu que je fais tellement d'allers-retours et que j'ai vécu de longues années, depuis que je suis à l'œuvre d'Orient, depuis 2011, dans mes déplacements au Liban, à chaque fois que je vais dans une université, dans une école, dans une librairie, dans une bibliothèque, dans une imprimerie, à chaque fois je trouve dans une sacristie, dans une salle ancienne, à chaque fois je trouve cela est un don de l'œuvre d'Orient, cela est un soutien à l'œuvre d'Orient. Et moi-même qui suis un rescapé de l'enseignement catholique maronite au Liban, je sais que l'œuvre d'Orient a soutenu l'école dans laquelle j'ai étudié, a soutenu l'université dans laquelle j'ai étudié. Donc l'œuvre d'Orient, par son soutien, non seulement agit durant la détresse, mais a contribué à la formation de plein de générations. Et la formation de plein de générations sur les principes chrétiens, mais sur des principes humains auxquels l'œuvre d'Orient croit aussi, dont se véhiculer par la francophonie, les principes du pluralisme, les principes de la citoyenneté et les principes de la diversité dans la société.
Nicolas Mélin-Sainte-Beuve, je reviens un instant sur le festival. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de site internet dédié au festival, ni de page. Vous êtes, j'imagine, en train de construire tout ça pour ensuite vraiment inviter chacun à participer.
Tout à fait, vous connaissez sans doute les mécanismes de la communication. Oui, voilà, dimanche la journée des chrétiens d'Orient, donc on ne peut pas tout exposer en même temps. Mais voilà, dans la foulée de la journée des chrétiens d'Orient, tout le programme sera dévoilé au fur et à mesure. Voilà, mais donc dans quelques jours seulement.
Ça va arriver. Avec très, aussi très des, donc on l'a dit tout à l'heure, des grands invités et des rencontres, également des témoignages. Est-ce que là aussi vous avez quelques noms à nous transmettre? Alors Antoine va participer en donnant une conférence. Est-ce que vous avez d'autres exemples?
Voilà, alors bien sûr la présence de notre directeur général, Monseigneur Pascal Gollnisch, et puis je le mentionnais un petit peu plus tôt, Monseigneur Jacques Morad, donc archevêque de Homs en Syrie, pour les Syriaques. Voilà, et puis on attend aussi la participation de nombreux prêtres et religieux orientaux, voilà, pour qu'ils puissent aussi venir partager avec nous, soit des prêtres orientaux d'Orient, soit de France, et des religieux bien entendu, pour qu'ils puissent venir un petit peu partager avec nous leur spiritualité, leur connaissance de leurs églises, voilà.
Donc pour l'instant, la communication, en effet, elle arrive doucement, mais sûrement. D'ailleurs, je m'adresse à la personne de l'œuvre d'Orient qui a fait un tweet pour annoncer l'émission et qui a noté le nom de l'émission. Je pense donc je suis. Alors je suis un petit peu vexé parce que l'émission c'est Je pense donc j'agis. C'est pas très grave, hein, je titille un petit peu. Ce festival, il aura lieu les 6 et 7 juillet 2024 à l'abbaye d'Andecy. Est-ce qu'il est ouvert aux familles? Alors vous avez dit c'est ouvert à tout le monde, mais est-ce que voilà, il va y avoir aussi quelques activités festivité pour les familles à proprement parler, Nicolas ?
Bien entendu, alors nous n'aurons pas de garderie pour les plus jeunes, mais enfin, oui, on a prévu des activités pour les plus jeunes, des activités adaptées, et puis le but aussi est que ce festival puisse être familial dans le sens où tout puisse se vivre ensemble. Voilà, alors bien entendu, il y a des conférences qui ne seront pas forcément accessibles pour des jeunes publics, mais voilà, on prévoit aussi des choses pour ces jeunes publics-là.
Antoine Feffel, votre conférence, est-ce que vous savez à peu près sur quoi elle va porter ou c'est un peu flou pour l'instant?
Heureusement que je le sais. Je vais parler d'un sujet qui m'est beaucoup demandé parce qu'il intéresse et parce qu'il est rare dans son développement, c'est la géopolitique des chrétiens d'Orient. Ouais. Les gens veulent comprendre pourquoi les choses se passent ainsi, pourquoi il y a des difficultés, il y a des départs, des émigrations. Et cette géopolitique des chrétiens d'Orient, que j'enseigne, pour laquelle j'ai écrit un livre qui est en cours de réédition, est le sujet que j'aborderai. Et je mets surtout en évidence le fait que chrétien d'Orient comme notion est une spécialité française. Elle dit la proximité ou la particularité de la relation qu'il y a entre les Français et les chrétiens de cet Orient. Jadis, c'était l'Empire ottoman. Aujourd'hui, c'est le Proche-Orient. Donc, elle dit la proximité des Français. Elle raconte cette géopolitique, la naissance de la notion des chrétiens d'Orient comme concept géopolitique au XIXe siècle. Et cette conférence parle aussi de la situation actuelle de ces chrétiens au Liban, en Syrie, en Israël, Palestine, en Égypte, en Jordanie, en Irak, en montrant les éléments principaux qui nous permettent d'apprécier le poids de leur présence et les perspectives de leur avenir, c'est-à-dire la démographie, c'est-à-dire leur participation au pouvoir, et c'est-à-dire la théologie politique ou toutes les problématiques qui sont vécues et dont nous sommes très malheureusement témoins aujourd'hui. Donc c'est ce qui va être abordé dans cette conférence et je crois que ce sera en diapason avec ce que Monseigneur Jacques Mourad, mon ami depuis très longue date, puisque nous avons étudié ensemble en 98 au Liban, ça sera en résonance parce que Jacques témoignera certainement de l'intérieur, mais j'ose imaginer qu'il nous parlera de l'expérience de captivité qu'il a vécue pendant plusieurs mois, puisqu'il a été kidnappé par Daesh et qu'il a été donc leur otage. Et pour comprendre tout ça, il faut être au fait de la géopolitique des chrétiens d'Orient. La raison pour laquelle je disais les icônes, la spiritualité, c'est magnifique. Il faut enrichir cela par une compréhension de la réalité sur le terrain. Et c'est un objectif que l'œuvre d'Orient se propose et vous propose. Et c'est ce sur quoi l'Institut chrétien d'Orient travaille aussi.
Et ça, on pourra retrouver tous ces éléments lors de votre conférence pendant ce festival des chrétiens d'Orient, les 6 et 7 juillet, à l'abbaye d'Andecy, dans la Marne. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour, je suis votre émission. Oui. Désolé, j'ai pris en cours de route.
Pas de souci.
Voilà, moi je suis très très concerné par ce problème de chrétiens d'Irak depuis les guerres, depuis que les États-Unis. Enfin bref, je vais pas remonter l'histoire. Et donc moi, ce que je voudrais aider, mais sur place, je sais pas si c'est possible. Moi, je suis maintenant à la retraite en tant qu'enseignant et directeur de centre de formation, en langue particulièrement, donc j'ai des supports pédagogiques que j'aimerais donner aussi, supports pédagogiques, c'est-à-dire dictionnaires, des CD, des cours de langue, et puis travailler sur place peut-être pour aider à des formateurs pour pouvoir développer tout ça, quoi. Donc je ne sais pas comment, je n'arrive pas à trouver le bon contact pour pouvoir être... Est-ce que c'est possible déjà d'aller sur place et de passer du temps pour se consacrer à l'éducation, en fait, auprès des chrétiens d'Orient.
Merci beaucoup, Louis-Marie, pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Vous habitez à côté d'Aix-les-Bains, Nicolas Mélin-Sainte-Beuve. Je trouve que c'est une belle demande. Et peut-être que des Louis-Marie, il y en a beaucoup en France qui ont envie de s'investir, qui ont envie d'aller sur le terrain. Que peut-on lui répondre ?
Alors, effectivement, une belle demande et puis voilà une volonté qui effectivement nous est remontée de beaucoup d'endroits. Alors aujourd'hui, je pense d'abord qu'il ne faut pas ignorer les consignes du ministère des Affaires étrangères. Voilà, on reste en France. Voilà, donc faire attention si on se déplace. Alors rien n'empêche de se mettre en contact avec des personnes qui connaissent le terrain pour voir en fonction des périodes si c'est quelque chose qui est judicieux ou pas. Toujours est-il que nous à l'Œuvre d'Orient, nous n'envoyons pas de volontaires sur un court terme en Irak. Nous avons là-bas des gens qui travaillent avec nous sur un long terme, mais voilà, nous envoyons plutôt à court terme dans des pays où l'État français nous dit que il n'y a pas de problème. Donc voilà, nous envoyons en Égypte, nous envoyons au Liban, en Europe de l'Est, bien entendu, Bulgarie, Roumanie, où il y a aussi des communautés orientales que nous aidons fortement, surtout depuis la chute du communisme, des églises qui ont vraiment été martyrs pendant le communisme. Voilà, donc nous envoyons dans ces pays-là. Donc déjà, si on veut se rapprocher du terrain, peut-être commencer par des pays plus accessibles. Et puis voilà, au fur et à mesure de l'expertise qui vient, pourquoi pas aller plus loin.
Et pour aller plus loin, Louis-Marie, moi je vous renvoie vers le site internet oeuvre-orient.fr. C'est ce qu'il y a de plus simple pour aller vraiment se renseigner sur toutes les actions et de l'Œuvre d'Orient. Ça vous touche, Antoine Feffel, un témoignage comme celui de Louis-Marie?
Heureusement qu'il y a Louis-Marie et, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, plein de Louis-Marie en France.
Oui.
Merci beaucoup Louis-Marie. Je vous invite à rentrer en contact avec l'œuvre. Appelez s'il vous plaît, le numéro de téléphone, vous pouvez le trouver. Et vous pourrez parler avec des personnes qui vous diront comment pouvoir profiter de votre générosité. Bienvenue, vous êtes chez vous. Oui, bien sûr que je suis touché et je sais sur place à quel point le soutien de nombreux Français, que ce soit un soutien spirituel, moral, éducatif, financier, à quel point cela fait la différence. Et ce n'est pas nouveau.
Donc ce festival, je vais le rappeler puisqu'on arrive à la fin de cette émission, il aura lieu les 6 et 7 juillet 2024 à l'abbaye d'Andecy, c'est dans la Marne, et toutes les informations sont à retrouver bientôt sur le site de l'Œuvre d'Orient, oeuvre-orient.fr. Merci beaucoup Nicolas Mélin-Sainte-Beuve et Antoine Feffel d'avoir participé.
Merci à vous.
C'est un vrai plaisir.
Merci de votre accueil. Merci aux auditeurs.
De parler de ce sujet. Alors, c'est pas vraiment fini puisque, comme tous les lundis, on va retrouver notre chroniqueur et on va parler de la petite enfance. Voilà, on fait un petit pas de côté dans Je pense, donc j'agis. Pour parler de la petite enfance, on retrouve Florent de Baudemann, cofondateur et directeur de l'association Mille et un mots avec le soutien de la fondation Saint-Irénée. Bonjour Florent.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Est-ce qu'on va interdire les écrans aux bébés? C'est la question un peu provocante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, que vous vous posez ce matin.
Mais tout à fait Melchior, parce qu'il y a 10 jours, le Premier ministre a dit souhaiter une loi à ce sujet. Il voudrait interdire l'exposition aux écrans dans les crèches et chez les assistantes maternelles.
Et qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis assez sceptique sur cette idée. Cette loi, elle viserait les professionnels de la petite enfance, mais derrière, il y a une intention plus large. On devine une envie ou un message de prohibition complète des écrans pour les jeunes enfants, même quand ils sont à la maison avec leurs parents. Or, pour moi, faut-il interdire les écrans aux bébés? C'est une mauvaise question. Parce que c'est une question clivante, accusatrice pour les adultes qui s'occupent des bébés. Et je pense que la bonne question, c'est plutôt comment aider les adultes à réduire fortement l'exposition des bébés aux écrans.
Et pourquoi c'est une meilleure question pour vous?
D'abord, elle nous oblige à nous demander qu'en pensent les parents. Pourquoi est-ce qu'ils montrent autant de vidéos à leurs bébés? Au sein de notre association Mille et un mots, nous avons rencontré par exemple une mère qui s'appelait Oksana. Elle avait un fils de 2 ans et elle nous avait dit « Mais moi j'ai souvent besoin de l'occuper pendant que je prépare le dîner, etc. Et puis j'ai l'impression aussi que quand il regarde des comptines, mon fils, ça lui a permis d'apprendre à dire des chiffres ou à dire des mots en anglais. » Et donc la première réponse aux écrans, c'est d'abord d'expliquer que à 1 an ou 2 ans, un bébé il n'apprend rien en regardant tout seul une vidéo. Pour qu'il y ait réellement un apprentissage, comme apprendre à compter jusqu'à 5, il faut que l'enfant il essaye de compter à haute voix, par exemple le nombre de ses doigts, qu'il soit activement impliqué. Et puis, il faut qu'il ait un retour sur ses tentatives. Par exemple, un adulte qui lui dise « Ah ben bravo, oui, tu as bien compté tes 5 doigts ». Or, quand un petit enfant regarde une vidéo, il reste passif, il n'y a pas d'interaction. Donc le vrai problème des écrans, c'est qu'ils privent les bébés de moments d'échange avec les adultes. Ils sont comme un obstacle entre l'enfant et l'adulte. Et dans notre association Mille et un mots, nous avons un grand message pour les parents qui est « Si vous parlez ou jouez avec votre enfant, vous lui donnerez quelque chose d'extraordinaire, de beaucoup plus riche et stimulant que n'importe quelle vidéo. »
Donc finalement, vous nous dites qu'il ne faut pas interdire les écrans, mais surtout promouvoir d'autres activités.
Mais exactement, comme par exemple le fait de regarder des livres avec les bébés. Cette maman dont je vous parlais, Oksana, elle n'avait encore jamais montré de livre à son fils de 2 ans. Elle ne pensait pas que ça pourrait déjà lui plaire. Et grâce au programme de notre association Mille et un mots, elle a reçu des livres par la poste pour son fils, qui a eu un énorme coup de cœur pour le premier, un grand imagier, un coup de cœur tel qu'il ne voulait plus manger sans avoir le livre à côté sur la table, il ne voulait plus s'endormir sans le mettre sous son oreiller. Alors très vite, cette maman, elle a vu à quel point cela diversifiait le vocabulaire de son fils, par exemple avec des noms d'animaux qu'il avait découverts dans ce livre, et bien cela l'avait fortement motivé à éteindre beaucoup plus souvent la télévision.
Merci Florent Bonneman, et on pense à tous les jeunes parents qui cherchent des solutions pour réduire les écrans. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Mille et un mots, et puis auteur d'un livre qui s'appelle « À portée de mots », qui revient en détail sur cette approche. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur ce livre, Florent ?
Oui, bien sûr. Alors, mais c'est un livre qui revient sur le pourquoi de l'intérêt de parler avec son bambin, avec son enfant, regarder des livres avec lui, et puis qui présente aussi très concrètement comment faire, par exemple, pour intéresser un bébé à un livre, pour que la lecture soit riche et stimulante pour l'enfant.
Et puis toutes les questions autour des écrans, et ça c'est voilà, ça on pourra en discuter pendant des heures, et notamment dans cette émission. Merci Florent Bonneman, et pour retrouver plus d'informations, rendez-vous sur le site internet milleetunmots.org. Et encore merci à vous deux, Nicolas Mélin-Sainte-Beuve et Antoine Fleifel, d'avoir participé à Je pense donc j'agis. Je rappelle l'Institut chrétien d'Orient, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut également retrouver plus d'informations sur le site institutchrétiendorient.org. Et puis pour l'œuvre d'Orient, œuvre Orient.fr. On mettra tous les liens sur notre site rcf.fr. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci également à Simon qui a permis de coordonner la préparation de l'émission. Merci à Hugo, Catherine, Baptiste et Pierre-Henri à la réalisation. On va se retrouver demain avec grand plaisir dans Je pense donc j'agis. Alors exceptionnellement, ce sera une rediffusion pendant 2 heures, mais on va parler météo et climat. On fera vraiment la différence entre les deux. Et puis on vous présentera ceux qui ont des coups de foudre pour les orages. Ce sont les chasseurs d'orages, vous les entendrez, ils sont passionnants. Demain entre 9h et 11h. Je rappelle que vous pouvez toujours rejoindre notre groupe Facebook Je pense donc j'agis, dans lequel vous pouvez poster vos témoignages qu'on lira ensuite en direct dans l'émission. Donc voilà, si vous avez Facebook, faites un petit détour dans votre barre de recherche, tapez Je pense donc j'agis et rejoignez notre groupe. Bonne journée à tous, à demain.